J'ai commencé une thèse il y a 4 ans sur la politique de l'Union européenne de lutte contre les inégalités hommes-femmes dans l'emploi. C'est une thèse de sciences politiques, en fait, parce que l'Union européenne a adopté une nouvelle méthode de la fameuse gender mainstreaming qui est très à la mode, qui consiste à intégrer dans toutes les politiques publiques un regard et une recherche de la, enfin, un regard sur les inégalités entre les hommes et les femmes. Donc notamment dans l'emploi, et je voulais savoir comment ça se passait, non pas au niveau des institutions communautaires donc, qui ont lancé cette méthode, mais dans l'application concrète, dans les politiques au niveau local. Et du coup, j'ai choisi de regarder en Seine-Saint-Denis et à Berlin comment, dans des programmes pour l'emploi, donc financés par la région, le département, comment est-ce qu'on essaye en fait de promouvoir la place des femmes dans le travail et comment on essaye de concrétiser cet objectif d'égalité hommes-femmes. Qu'est-ce qu'on entend précisément derrière et comment les acteurs de politique publique arrivent à intégrer ou non dans leur travail la promotion de l'égalité. Ça c'est le travail de thèse. Après, il y a donc les lectures sur la sociologie de l'emploi, de comment le thème finalement en est venu dans le milieu académique, comment les sociologues, quel travail elles ont fait pour visibiliser tout simplement les inégalités. Et donc le travail de la sociologie dans les années 60-70, ça a été d'expliquer ce que c'était que les inégalités dans l'emploi, pourquoi est-ce que les hommes et les femmes continuaient, en dépit de la hausse du taux d'activité des femmes, à avoir des parcours différenciés. Enfin, il y a eu aussi tous les débats sur ce que c'était que le travail pour les hommes et pour les femmes, le travail salarié, le travail à la maison, l'implication des femmes dans la sphère domestique, qui leur demandait justement beaucoup de travail aussi, mais qui leur offrait pas de rémunération et donc d'indépendance. Donc les thèmes se sont diversifiés, développés. Il y a eu aussi comment les hommes et les femmes percevaient leur engagement professionnel, le syndicalisme aussi. Donc c'est un terrain de recherche assez développé finalement. Et aujourd'hui, c'est un thème pour les sociologues, les historiennes, les politologues, les économistes. Il y a par exemple des économistes qui essaient d'expliquer pourquoi aujourd'hui, en moyenne, donc, les femmes continuent de gagner 25% de moins que les hommes. Ça c'est oui pour les inégalités de salaire, ça peut donc être un thème de recherche pour les économistes, mais il y a aussi, par exemple pour les politologues, regarder comment les politiques publiques arrivent ou non à thématiser la question des inégalités de salaire. À partir de quand finalement les politiques publiques ont essayé de lancer des programmes d'insertion en faveur des femmes? Comment les politiques familiales aussi peuvent interférer avec la place des femmes dans l'emploi? Il y a un exemple qui est souvent cité, par exemple pour la France, c'est la fameuse allocation parentale d'éducation. On a expliqué que finalement c'était presque une incitation financière pour les femmes, notamment les femmes peu qualifiées, au retrait du marché du travail, parce que finalement on leur offrait de l'argent pour élever leurs enfants. C'était pas le jackpot, mais c'était une petite somme qui parfois s'avérait être presque plus payante qu'un salaire de caissière à mi-temps mal payé. Finalement, donc, ces femmes, au moment de l'arrivée des enfants, peuvent se retirer du marché du travail, pas forcément parce que c'est leur vocation naturelle d'être maman à la maison, mais parce qu'elles font un choix stratégique financier. Elles décident donc finalement de bénéficier de l'allocation parentale d'éducation, peut-être aussi parce que les emplois peu qualifiés leur permettent pas forcément de payer une assistante maternelle ou une place dans une halte garderie. Et donc, pas forcément, donc, comme je disais, par choix, elles se retirent du marché du travail pendant 1 an, 2 ans, parfois plus, et peuvent avoir après des difficultés pour se réinsérer après une longue interruption de leur carrière professionnelle.
Justement, l'emploi féminin, c'est quand même en grande partie lié à un rapport à l'histoire, puisqu'il y a une évolution du salariat qui est aussi liée aux politiques publiques, mais aussi aux situations de crise économique ou de crise de guerre. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu l'histoire du salariat?
À partir des années 60, il y a un accès massif des femmes à l'emploi salarié, mais ça ne veut pas dire qu'avant les années 1960, en France, en Europe, les femmes étaient absentes du travail. Elles étaient soit présentes en milieu rural, au champ, tout simplement, ou mais pas seulement au champ, elles étaient aussi, elles avaient des emplois dans l'industrie textile, par exemple au 19e siècle. Il y a des travaux, des monographies qui ont été faites pour montrer comment finalement même les employeurs avaient parfois cherché à développer le travail féminin dans les périodes plutôt faste de l'emploi, en soupçonnant finalement que les femmes étaient plus douées pour certains travaux parce qu'elles étaient plus habiles de leurs mains, etc., etc. Donc en jouant finalement sur des représentations assez traditionnelles, mais aussi en exploitant des capacités qui avaient pu être développées dans la sphère domestique, puisque c'est vrai que les femmes ont aussi de tout temps, entre guillemets, assumé une grande partie du travail domestique de façon non rémunérés donc, et ont peut-être effectivement développé certaines compétences, non pas de façon naturelle, mais de façon... pas parce que leur rôle social les a poussées vers là. Donc les femmes, elles ont travaillé au champ, elles ont travaillé dans l'industrie textile, mais elles n'avaient pas forcément la même forme d'emploi que les hommes, c'est-à-dire qu'elles faisaient un travail tout aussi essentiel aussi bien pour la famille que pour la société en général, mais pas forcément sous la forme d'un emploi dans la sphère publique, à l'extérieur de la maison. À la fin du 19e, début du 20e, il y a eu une accélération de l'industrialisation et tout, mais les femmes y ont aussi participé. C'est-à-dire qu'il y a eu ces fameux emplois dans l'industrie textile, il y a eu aussi au moment de la Première Guerre mondiale les femmes qui ont remplacé entre guillemets les hommes qui étaient plus absents forcément puisqu'ils étaient à la guerre. Les femmes ont aussi été institutrices assez rapidement à partir de la généralisation de l'éducation. Les femmes ont eu accès aux carrières publiques. Alors ce qui est marrant, c'est que justement Françoise Battagliola montre que même si le travail d'institutrice a été un travail très féminisé, c'était pas forcément les mêmes formes d'emploi et d'ascension professionnelle qui étaient valorisées. Les femmes étaient par exemple moins présentes dans les fonctions, dans les hauts postes de l'éducation nationale, elles étaient plus instites dans les écoles primaires tout simplement ou dans les collèges. Il y a eu aussi tout le développement de la profession d'infirmière, d'aide-soignante, qui a aussi été... Donc ça, c'était des carrières publiques qui ont été largement féminisées à partir des années 20, des années 30. Et en fait, ça, c'était pour dire que finalement, aujourd'hui, on considère que, peut-être plus émancipées ou je ne sais quoi que nos grands-mères, mais que souvent les grands-mères, elles ont aussi eu un emploi et qu'elles ont aussi contribué finalement... à l'économie nationale. Et puis la grosse rupture, c'est quand même les années 60, parce que finalement il y a eu une massification des formes d'emploi salariés, c'est-à-dire que les femmes ont investi soit de nouveaux métiers, soit tout simplement leur accès aux usines ou aux fonctions publiques, aux emplois publics, se sont massifiés avec l'essor économique des années 60. Je crois que c'est une des explications indéniables, c'est que tout simplement on a eu besoin de la main-d'œuvre féminine avec l'essor économique, les fameuses 30 glorieuses, là, et donc on a fait appel à la main-d'œuvre féminine. Les historiennes ou les sociologues du travail contextualisent aussi cette massification de l'emploi féminin en expliquant que c'est dans une période d'émancipation des femmes, de revendication à l'autonomie. Donc il y aurait eu peut-être rencontre entre des besoins économiques et des volontés individuelles de s'émanciper, de s'autonomiser par rapport au mari, au conjoint, de pouvoir s'émanciper aussi, de faire carrière entre guillemets dans le travail. Ça s'est mis en place dans les années 60. Et puis alors ce qui est marrant, c'est que donc il y a eu finalement des acquis pour les femmes, c'est-à-dire qu'il y a eu de plus en plus de femmes qui ont été actives tout simplement, qui sont sorties du rôle traditionnel de la femme et de la mère au foyer. En même temps, cette petite révolution, elle a pas gommé finalement les inégalités entre les hommes et les femmes, et il y a eu insertion professionnelle, mais une insertion qui reste sexuée d'une certaine façon, et c'est ce que montrent tous les travaux de sociologie aujourd'hui, qui mettent le doigt en fait sur les la persistance de, alors soit de formes d'emploi spécifiques, soit de discrimination, soit de trajectoires différenciées. Alors, je m'explique parce que c'est un peu jargonneux. Par exemple, on observe donc aujourd'hui, si les femmes sont autant salariés, enfin même plus salariés que les hommes, on regarde, j'ai pas les chiffres en tête, mais on remarque par exemple que la proportion de femmes actives est concentrée dans un emploi salarié. Il y a beaucoup moins de femmes par exemple qui travaillent en indépendante, soit petits commerçants, médecins, etc., soit activités agricoles indépendantes, etc. Les femmes aujourd'hui, quand elles ont un emploi, elles sont plus sous la forme du salariat, donc dans une relation employeur-salarié. Les filles font des choix raisonnés et vont là où il y a aussi du travail pour elles, tout simplement. C'est-à-dire vers la fonction publique, les métiers d'institutrice, d'enseignante, vers les métiers d'infirmière. Finalement, elles investissent leur parcours scolaire en faisant un choix très rationnel pour être sûre de trouver un emploi. Parce qu'elles pensent qu'elles ont plus de chances d'en trouver là où il y a du travail, où la carrière est possible, que dans des métiers peut-être plus difficiles, plus discriminants. Je sais pas, moi, soit des métiers d'ingénieurs, des métiers plus scientifiques, qui sont des métiers quand même plus occupés par les hommes encore. Même si les femmes ont quand même réussi à percer les fameux bastions masculins, c'est-à-dire qu'on trouve des femmes dans les écoles d'ingénieurs, qu'on trouve des femmes en agronomie, qu'on trouve des femmes, je le disais tout à l'heure, dans les métiers d'avocat, dans les métiers de journaliste. D'ailleurs, c'est maintenant des professions presque mixtes. Alors, ça c'est aussi le travail des sociologues, de montrer que les professions mixtes, c'est pas forcément des professions où les hommes et les femmes sont à égalité. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, dans beaucoup de professions encore, aussi bien dans la fonction publique que dans le secteur privé, ça c'est important de le dire, fameux phénomène de ségrégation verticale. C'est-à-dire que les chiffres ou les études plus fines, plus qualitatives ont montré que les femmes sont, en France par exemple, c'est 5% je crois des femmes qui sont, 5% des chefs d'entreprise qui sont des femmes. Dans la fonction publique, je crois qu'il y a quelques 3, 4 peut-être femmes qui sont préfètes en France. L'ENA, la voie royale pour accéder à l'administration publique, reste une voie encore beaucoup plus masculine. Donc on voit que les femmes, comment dire, ont fait leur trou, mais pas finalement, pas de façon aussi, pas de façon paritaire par rapport aux hommes. Mais on peut écouter des témoignages de journalistes, des témoignages de femmes dans les entreprises qui disent que finalement elles n'arrivent pas forcément à soit se faire autant reconnaître, accéder au même poste que les hommes. Alors les sociologues, elles ont essayé de s'interroger sur les raisons de cette persistance du fameux, ce qu'on appelle le plafond de verre, ce que d'autres appellent d'ailleurs le plancher collant, en disant que c'est pas tant un plafond de verre qu'un plancher collant qui fait que les femmes restent collées au niveau de base, entre guillemets, dans les métiers. Alors, je crois qu'il faut... Il n'y a pas forcément une cause unique. Il y a à la fois des phénomènes de discrimination, ce que je disais tout à l'heure, qu'on soupçonne encore les femmes d'être soit moins combatives, moins volontaires, parce que les femmes seraient naturellement plus altruistes et moins ambitieuses que les hommes. Bon, ça c'est quand même un peu ric-rac comme explication.
Pourtant au départ, d'un point de vue scolaire, universitaire, les femmes réussissent presque plus finalement que les hommes.
Oui, mais ça effectivement c'est le paradoxe, c'est que finalement elles sont mieux qualifiées, même d'une certaine façon, si on regarde les niveaux de qualification. Ce qu'on explique, c'est que les filles, le pourcentage de filles qui ont par exemple bac plus 2, bac plus 3 est plus élevé que le pourcentage de garçons. Donc elles ont rattrapé les garçons et même dépassé d'une certaine façon les garçons. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça continue à se faire de façon différenciée. C'est-à-dire qu'elles ont par exemple réussi, mais dans des secteurs qui ne sont pas forcément les plus rémunérés, par exemple. Enfin, la rémunération, ce n'est pas le seul critère de reconnaissance, mais c'en est un. Et finalement, elles ont réussi à se qualifier, mais les qualifications ne sont pas forcément valorisées sur le marché du travail. Par exemple, à bac plus 2, bac plus 3, il y a des métiers, notamment dans le secteur médico-social, des vraies qualifications qui ne débouchent pas forcément sur des emplois très reconnu socialement, rémunéré, avec des bonnes conditions de travail, etc. Donc ça, c'est effectivement, c'est un paradoxe. Elles sont, et dans les secteurs finalement masculins où elles ont réussi à pointer, ce que j'ai tout à l'heure, elles n'ont pas pointé en masse dans les métiers comme la haute ingénierie ou la haute fonction publique, etc. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'en fait, par rapport aux phénomènes de discrimination, il faut quand même bien voir aussi que le problème, il n'est pas juste au niveau des représentations des employeurs. Il est aussi qu'on est dans une société qui, hors de la sphère du travail rémunéré, continue à fonctionner de façon inégalitaire, voire très inégalitaire, qui fait que, parfois aussi, de fait, on va dire, les femmes ont moins de chances, on va dire, de s'investir professionnellement. C'est-à-dire qu'elles ont plus de charges familiales, par exemple. Elles ont plus de travail dans la sphère domestique. Et donc, ça joue forcément sur leur... ça peut jouer sur leur implication professionnelle. On retrouve le même thème en politique, c'est-à-dire que les femmes politiques expliquent qu'elles ont eu parfois du mal à concilier leur vie privée, leur vie familiale et leur vie professionnelle. Les hommes aussi, mais sauf que les hommes, on attend moins d'eux, ou il y a moins de pression sociale pour qu'ils continuent à assumer leur travail domestique, le travail d'éducation des enfants, le travail de faire tourner la machine à laver, etc. Et donc, ça, forcément, ça peut jouer ensuite dans les déroulements de carrière. Soit les femmes, finalement, s'auto-censurent, ça, il y a quand même des travaux de sociologie qui l'ont montré, c'est-à-dire qu'elles vont parfois même refuser un poste parce qu'elles ont soit peur de ne pas y arriver, soit de fait... Et c'est ça qui est intéressant, c'est que, finalement, le fait que les femmes, parfois, n'arrivent pas à faire carrière de la même façon que les hommes, ça révèle un certain dysfonctionnement dans l'organisation de notre société, parce que bah oui, on peut pas tout faire, on peut pas être au boulot de 9h du matin à 8h du soir, s'occuper de ses enfants, faire un peu de ménage chez soi, faire ses courses. Et donc, y a aussi des choix qui sont faits, mais qui, à mon avis, devraient pas être des choix exclusivement féminins. Et si on s'intéresse, c'est ça qui est intéressant, si on s'intéresse aux questions d'inégalité homme-femme, on se rend compte, oui, les femmes, elles ont eu accès au travail, mais elles ont toujours du mal à faire carrière de la même façon que les hommes. C'est peut-être que finalement les carrières des hommes, elles clochent un peu. Elles clochent un peu parce que, notamment pour les carrières supérieures, entre guillemets, elles sont trop prenantes. Et peut-être que finalement, regarder les trajectoires professionnelles des femmes, c'est se rendre compte que le travail des hommes prend peut-être trop de place dans leur vie. Et que, ils ont les meilleures positions dans l'entreprise, les meilleurs salaires, mais au détriment du travail non rémunéré. Alors, eux le voient peut-être pas comme quelque chose de dommageable, mais c'est au détriment de leurs femmes parfois, c'est-à-dire qu'ils ont fait carrière en entreprise, mais ils ont délaissé une partie de l'éducation de leurs enfants, de leurs tâches domestiques, mais ils délaissent aussi d'autres choses, ils délaissent un possible engagement politique, un possible temps de loisir. Et donc, oui, les femmes, elles continuent peut-être à avoir plus de mal à faire carrière sur ce modèle-là, parce que, c'est difficile de savoir après ce qui relève du choix personnel. De toute façon, les choix personnels, c'est des choix dans des contextes sociaux. Et finalement, les femmes auxquelles on continue qui continuent d'assumer une partie de leur rôle social traditionnel, c'est-à-dire le travail de soins des enfants, le travail de prise en charge de la famille, etc., elles n'arrivent pas à tout concilier. Ce qui est marrant d'ailleurs, c'est qu'au niveau des politiques publiques, on a compris qu'il y avait un problème, d'articulation, de conciliation, et c'est la grande mode, les politiques de conciliation vie familiale, vie professionnelle. On s'est rendu compte que finalement, pour que les femmes puissent s'engager professionnellement, alimenter le fameux PIB, travailler à plein temps, il fallait les décharger, entre guillemets, d'une partie des tâches domestiques. Alors, ce qui est marrant, c'est que ces politiques publiques, elles ne sont pas forcément très inégalitaires. Justement, en ce moment, je travaille là-dessus. L'Union européenne, c'est un de ses grands chevaux de bataille en ce moment. Enfin, grand chevaux, faut pas exagérer non plus, mais en tout cas, elle thématise la politique de conciliation vie familiale, vie professionnelle. Mais on voit qu'elle le fait de façon pas forcément toujours très égalitaire, c'est-à-dire que cette politique de conciliation, elle s'adresse plus aux femmes qu'aux hommes. C'est déjà un problème. On oublie de dire que cette conciliation, elle devrait se faire aussi bien pour les hommes que pour les femmes, parce qu'avoir un papa à la maison, c'est important aussi, ou que les hommes partagent le travail non rémunéré, donc le travail domestique avec leur conjointe ou leur conjoint, c'est très important aussi. Mais en plus, effectivement, cette mesure qui est donc présentée comme une mesure qui permettrait finalement une meilleure harmonie personnelle entre le travail rémunéré et le travail non rémunéré, et la vie familiale, etc., se transforme parfois en, comment dire, est instrumentée d'une certaine façon dans la sphère économique pour finalement légitimer des espèces de temps partiels avec des formes d'emploi atypiques qui au contraire ne permettent pas du tout de concilier puisque comme tu disais c'est des emplois à 20 heures dans des supermarchés où on travaille par exemple de 11 à 14 et puis de 17 heures à 20 heures avec des grosses pauses à midi par exemple qui permettent pas aux femmes ou aux hommes de revenir chez eux, de s'occuper de leurs fameux enfants. Donc finalement, c'est même des travaux qui peuvent les faire travailler jusqu'à 22 heures, qui les éloignent encore plus de leur responsabilité parentale, privée, etc. Donc ça, c'est disons qu'il faut être vigilant sur cette question. Moi, je pense que l'idée de conciliation, d'articulation, elle est très intéressante. Mais d'une part, elle devrait être thématisée et offerte et promue aussi bien chez les femmes que chez les hommes. Et puis surtout, il faut qu'elle soit, à mon avis, saisie par les salariés et par les syndicats pour qu'elle ne se transforme pas en outil de flexibilisation subie du temps et des conditions de travail. Parce que il y a des formes de flexibilité qui peuvent être, à mon avis, positives, mais on voit bien qu'aujourd'hui, c'est pas la flexibilité choisie, la flexibilité équilibrée, entre guillemets, qui est là. C'est une flexibilité qui, comme tu disais, conduit à des horaires. Il y a aussi, par exemple, les emplois de femmes de ménage. C'est fou, quoi. Elles se lèvent à 5h du matin, elles vont travailler dans les bureaux de 6h à 10h, après elles ont un trou, et elles reviennent travailler de 17h à 21h quand les salariés sont partis des boîtes. Et ça, c'est. Parfois, elles additionnent des temps partiels pour pouvoir s'en sortir, parce que c'est pas avec un temps partiel payé au SMIC qu'on y arrive. Ça c'est un cheval de bataille. Où les âmes damnées grillent de bas en haut. Regardez qui est là, qui attise les flammes. Régnant sur les enfers, le diable est une femme. Rien d'étonnant, n'est-ce pas? Des brunes jusqu'aux blondes, par elles sont advenus tous les malheurs du monde. Le diable est une femme et vous vous en doutiez. La place d'une femme n'est-elle pas au foyer? Sur mon lit calciné, lascive et si cruelle, comment pour m'invoquer? Faut-il que l'on m'appelle mes diables et mes hommes, et Dieu même en personne, tout simplement me nomme patronne. Depuis tant de prophètes, de savants vertueux, l'équation est logique, c'est la preuve par deux. On l'attend proclamer sur un ton formidable. Le diable est une femme, les femmes c'est le diable. Et qu'elle soit victime ou qu'elle soit complice de leurs malheurs et fils et de leurs maléfices. Frappez dans les premiers talibans ordinaires ces démons adorés car il faut les faire taire. Sur mon lit calciné, lascive et si cruelle, messieurs, venez m'aider à ôter mes dentelles dans vos brûlants émois. Ainsi que je l'ordonne, allez, appelez-moi patronne. Patronne! Quel que soit le brigand, il y a la corruptrice, consciente du pouvoir qui dort entre ses cuisses, qui susurre les ordres et les avis funestes, vous mes sœurs les salopes, les putains et les bestes. Derrière chaque type, sans foi ni loi ni âme, si vous cherchez le diable, vous trouverez la femme, la gueuse, la traîtresse, la garce, la sorcière, la fille de Borgia et la maman d'Hitler. Sur mon lit calciné, lascive et si cruelle, je vous attends, venez,
mes belles demoiselles, que votre dernier mot, que la vie abandonne, soit dans un soubresaut, patronne. En attendant, je compte vos crimes et vos bassesses, tous vos pieux mensonges et vos histoires de fesses. J'encourage le vice, je provoque des guerres, je dirige le monde et Dieu me laisse faire. Parce que Dieu se fout bien de vos petits tourments, avec ses anges blancs dans son blanc firmament. Dieu est tellement belle, c'est une femme généreuse, mais ne vous y fiez pas, ça n'est qu'une allumeuse. Réponds à l'appel. Et pour me faire venir d'une voix qui frissonne, il suffit de redire patronne.
Pour revenir à la question des représentations dont tu parlais tout à l'heure, notamment la description que tu nous as de la société où on était, où finalement il y a toujours un fonctionnement patriarcal, ou du moins l'encadrement supérieur est très largement masculin. Ouais. Est-ce que déjà, d'une part, on constate quand même une évolution des carrières supérieures féminines, et est-ce que, deuxièmement, ça a un impact, en fait, si une femme devient cadre supérieur, si elle accède à une fonction supérieure, est-ce que les représentations traditionnelles jouent comme avant, finalement, ou si elle continue à embaucher des hommes sur des emplois d'hommes, etc., ou est-ce que, justement, elle devient, elle, un facteur de transformation au sein de l'entreprise ?
Bah, alors, le problème, c'est que, comme vous disiez tout à l'heure, il y en a peu de femmes pour l'instant, justement, à des hautes fonctions. Quoique, par exemple, le métier de DRH est quand même un métier qui est en partie féminisé, notamment, justement, en raison des supposées qualités féminines de communication, etc. Alors, je suis pas spécialiste de la question, mais j'ai quand même, enfin, il y a des exemples d'entreprises où effectivement certaines femmes, après avoir subi elles-mêmes les discriminations sexistes, qui en ont bavé d'une certaine façon pour arriver où elles en sont arrivées, certaines, oui, je peux pas vous citer d'exemples, etc., mais ça existe quand même, les femmes managers qui vont essayer de promouvoir l'accès des femmes aux fonctions supérieures. Ce qui est intéressant, c'est aussi de regarder, c'est une chose qui, à mon avis, est positive, la question est aussi de savoir ce que font ces femmes qui ont eu accès aux professions supérieures, à des bons salaires, à des formes de métiers valorisées, ce qu'elles font pour les autres femmes aussi. C'est-à-dire que, évidemment, c'est très bien d'essayer de briser le plafond de verre, d'essayer de tirer des femmes vers les métiers de cadre sup, etc. Je suis pas sûre que ce soit forcément des femmes qui aient une politique particulièrement sociale vis-à-vis du reste de la population salariée féminine, enfin de leur entreprise. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est quand on va dans des débats féministes, parfois, ça c'est un point d'achoppement, c'est-à-dire que on voit des femmes cadre sup qui viennent expliquer comment leurs entreprises sont, comme on dit, family friendly, elles sont devenues managers, elles essaient de, finalement, de concrétiser leur idéal de conciliation vie familiale, vie professionnelle. Elles essaient que les autres femmes cadre sup de leur entreprise aient des possibilités pour se décharger, entre guillemets, d'une partie de leur charge familiale en créant des crèches d'entreprise qui vont leur permettre de laisser leurs enfants jusqu'à 9h dans la boîte. Savoir si c'est une bonne chose, d'ailleurs, c'est quand même une question. Elles essayent de valoriser des femmes quand il y a des postes qui se libèrent, d'employer plus de femmes. Mais des femmes, notamment des militantes syndicales, leur reprochent de ne s'occuper que de ces femmes-là, que des femmes, des managers, des businesswomen, etc. Il faut le faire, c'est-à-dire qu'il faut, il faut tirer les femmes vers le haut, il faut permettre aux femmes de faire des carrières si elles le souhaitent dans leur entreprise, dans la fonction publique, etc. Mais il faut s'intéresser à toutes les femmes, à mon avis, quand on est féministe, on n'est pas juste féministe pour les meilleures, entre guillemets. À mon avis, si on, enfin, s'intéresser au féminisme, c'est s'intéresser aux questions d'inégalité homme-femme et aux questions, et c'est s'ouvrir sur la question d'inégalité en général.
Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, elle travaille sur la question d'inégalité homme-femme, mais elle reste dans des très vieilles représentations en termes de classe. Elles défendent en fait les femmes des classes supérieures et pas celles des classes inférieures. Il y a toujours ce problème de classe sociale qu'elle ne règle pas du tout.
Oui, enfin, je pense que c'est ça, effectivement, et je pense qu'il ne faut pas non plus être naïf, entre guillemets. Enfin, je pense qu'il n'y a pas qu'une seule forme d'engagement féministe, je dirais pas. J'ai mes convictions sur ce que ça devrait être, le féminisme, ça devrait être une défense de toutes les femmes, une lutte contre les inégalités entre les sexes, qui ouvre sur les inégalités en général. Je pense qu'on a aussi besoin de femmes qui... On ne peut pas non plus être présent sur tous les terrains, d'une certaine façon, et je pense que c'est très bien qu'il y ait des femmes qui... dans leur entreprise, à leur niveau, il y a aussi des femmes, par exemple, qui vont être des RH, qui n'auront pas forcément les moyens politiques de révolutionner le temps de travail, la politique salariale, etc. Et c'est pour ça que c'est important que ce soit, enfin, qu'il y ait aussi beaucoup de femmes dans les syndicats, tout simplement. Et je pense que tout changera pas par les femmes, j'y crois pas du tout, ça, par les businesswomen managers. Dans la lutte contre les inégalités hommes-femmes, il y a aussi, bien sûr, un rapport de force à créer entre classique, entre guillemets, entre employeurs et salariés. Il faut que les femmes, elles soient syndiquées, il faut qu'elles soient sur le terrain social pour tout simplement défendre aussi les intérêts des femmes qui occupent des emplois, qui n'arriveront jamais dans des positions, ou qui n'arriveront pas au moment, à un instant T, à des positions qui leur permettent, elles, de prendre des décisions pour la majorité. C'est-à-dire qu'il faut que, c'est tout simplement que, c'est aussi par l'action collective, le syndicalisme, que les conditions de travail et de vie de la majorité des femmes changera. Je pense qu'il y a, sur la question, pour venir à la question que tu posais au départ, je crois que ce qui existe aussi, ce sont les fameuses businesswomen qui ont bavé, entre guillemets, pour arriver où elles sont arrivées, et qui en reproduisent des comportements masculins, entre guillemets, on est bien d'accord, que et qui finalement sont dans une idéologie de la compétition, y arrivent celles qui sont bonnes, point, et qui ne cherchent pas forcément à se préoccuper de ces fameux problèmes sociaux, de quels horaires on met pour nos réunions. Finalement, si on fait une réunion qui commence à 6h, on va sûrement pénaliser des femmes, donc on va essayer de déplacer le temps des réunions. Il faut qu'on s'occupe de la question des gardes des enfants. Il y en a aussi, oui, qui ne le font pas. Je maîtrise pas la question de près, mais j'ai quand même été à des réunions de féministes sur le travail, etc., où des femmes syndiquées, ou même des femmes businesswomen, dénonçaient le comportement d'autres femmes qui étaient dans des positions managériales et qui ne mettaient... considérer finalement, avec une idéologie super libérale, que c'est une question de volonté, de capacité, d'engagement personnel, point, et que si on veut, on peut, en gros, quoi. Mais pour les questions de changement profond du monde du travail, je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir que, s'intéresser donc aux questions des inégalités hommes-femmes, c'est, comme je disais tout à l'heure, constater des dysfonctionnements vraiment du monde du travail, dans les horaires, dans la place que prend le travail dans la vie. Et c'est là où, à mon avis, la lunette féministe, entre guillemets, elle ouvre aussi des horizons pour les hommes. Je pense que aujourd'hui, c'est aussi dans l'intérêt des hommes de prôner cette fameuse conciliation, si elle est bien faite, pour pouvoir avoir plus de temps pour soi, mais pas pour soi seulement, bien sûr, pour sa famille ou sa vie sentimentale, pour pouvoir trouver aussi d'autres formes d'engagement collectif que le travail, parce que c'est aussi un engagement collectif, c'est pour pouvoir aller, faire de la flûte ou défendre l'environnement dans une association verte, pour pouvoir militer dans un parti politique. Et, Et c'est se dire que finalement, les formes de développement du travail féminin, les formes d'emploi féminin, ils sont peut-être considérés comme atypiques aujourd'hui, mais ils devraient peut-être... Alors, ce qu'on emploie par emploi atypique, je ne pense pas que ça doive être généralisé, parce que c'est des formes d'emploi assez mauvaises, c'est nuisible, mais peut-être qu'on devrait finalement repenser les formes d'emploi atypiques, le CDI 40 heures, etc. Enfin, le CDI, c'est bien, mais la semaine de 40 heures qui se transforme en semaine de 55 heures parce qu'il faut être au top, il faut s'investir et tout, je pense que c'est souhaitable pour personne. Et ça, c'est... Enfin, moi, c'est ce qui m'a finalement peut-être le plus intéressé dans les études de genre et dans le militantisme féministe, c'est que c'est pas du tout la valorisation d'intérêts catégoriels ou je ne sais quoi, c'est à partir de situations d'un groupe, le groupe des femmes, qui n'est pas du tout un groupe homogène d'ailleurs, c'est réfléchir sur des dysfonctionnements, mais aussi un projet de transformation sociale. Et c'est exactement la même... Enfin, à mon avis, c'est exactement la même problématique sur l'engagement des femmes en politique, c'est-à-dire que on constate que les femmes ont peu accès à la politique. Et quand on commence à se demander pourquoi, ben on se rend compte que oui, la politique, c'est aussi un engagement... un peu fou en termes d'investissement personnel, c'est des fonctionnements très masculins, avec de la cooptation, c'est du cumul de mandats qui fait que c'est un milieu très fermé, c'est du militantisme qui permet pas trop justement de concilier vie politique, enfin engagement politique et vie professionnelle et vie personnelle. Et c'est pour ça que le sujet de la parité est aussi, enfin on s'éloigne, mais que c'est aussi, c'est ça, enfin à mon avis, l'analyse féministe et les revendications féministes, ça permet vraiment de penser une forme de transformation sociale. Et ça, c'est chouette, quoi.
Une chose dont tu as un peu parlé, c'est la différence de salaire, puisque à diplôme et à travail égal, les femmes sont quand même moins payées. Est-ce que si une femme est DRH, elle valorise l'égalité salariale ?
J'aurais un peu de mal à répondre là-dessus, parce que à nouveau, je travaille pas trop là-dessus, mais sur les politiques salariales, etc. Ce que je peux dire quand même, c'est comment dire, sur les trajectoires professionnelles, on disait donc qu'il y avait ce fameux phénomène de plafond de verre, et on voit qu'aujourd'hui, je repense à cette étude sur le secteur bancaire en France et en Finlande, même quand les femmes accèdent aux positions supérieures, elles continuent de ne pas réussir à vraiment accéder au tip-top, entre guillemets. C'est-à-dire que, par exemple, dans le secteur bancaire, les cadres sup, il y a plus de cadres en Finlande, de cadres femmes en Finlande qu'en France, mais en Finlande aussi, les femmes ont du mal à accéder à ce fameux métier de cadre supérieur. Donc elles ont toujours du mal à accéder aux professions vraiment les plus rémunérées. Par ailleurs, est-ce que quand une femme et un homme ont... une forme d'emploi égale, est-ce qu'ils gagnent vraiment la même chose? Mais c'est délicat. Il y a les travaux de Rachel Silveira, notamment là-dessus, qui a un peu décortiqué les modes de fixation des salaires et qui explique qu'il y a quand même beaucoup de choses qui finalement aboutissent à des discriminations sexuées. Aussi bien d'ailleurs dans la fonction publique que dans dans le secteur privé. Même si, pour certaines formes d'emploi, je pense que le secteur privé continue à rester plus discriminant. Mais par exemple, le système des primes, en général, est très discriminant par rapport aux femmes parce que ce sont des formes d'appréciation assez subjectives du travail, qui correspondent... pour lesquelles, finalement, justement, les fameuses représentations sur l'engagement professionnel féminin moindre en raison des charges familiales peut jouer. Et puis, parfois, de fait, effectivement, les hommes feront plus facilement des horaires à rallonge, etc., auront plus facilement leur prime de super investissement, parce que, de fait, ils seront rentrés à 9h, tandis que maman, elle est rentrée à 6h pour aller chercher les enfants. Donc, dans les professions... bien rémunérée, je pense qu'effectivement, même s'il y a un fixe de départ égal, il continue à y avoir, notamment par le système des primes, encore des inégalités qui sont plus ou moins des discriminations. C'est-à-dire qu'effectivement, parfois, les hommes ont plus fait d'heures, etc. Mais des fois, on ne sait pas très bien. Par exemple, on n'a pas forcément discuté collectivement de comment on attribue les primes. Pour les problèmes des inégalités salariales, ceci dit, c'est pas juste la question de la discrimination, c'est aussi la question des inégalités structurelles, et ça, évidemment, c'est c'est très grave, parce que ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les femmes restent surreprésentées dans les métiers, alors soit dans les temps partiels, par exemple, peu payés, ces fameux emplois de femmes de ménage, de caissières, bah oui, ça c'est les emplois aujourd'hui, c'est les fameux working poor, et c'est 80% des temps partiels aujourd'hui, c'est des femmes. Je dirais pas que la totalité des temps partiels correspond à ces formes d'emploi, mais on sait aujourd'hui que les temps partiels se développent sur ces formes d'emploi et que c'est des femmes qui les occupent. Donc ces femmes-là, sans être discriminées à l'embauche ou ne pas avoir de primes, etc., c'est pas ça la question, là. C'est qu'elles sont... C'est elles qui arrivent sur ces métiers qui, de toute façon, sont mal payés, mal reconnus, qui sont... qui sont tout simplement... Enfin, des formes d'emploi scandaleuses, tout simplement. Et là, c'est... Enfin, on n'a qu'à voir. Je pense que tout le monde voit sur son lieu de travail qui vient passer l'aspirateur, vider les poubelles... qui fait le ménage à 6h le matin. Il y a des hommes aussi, et il faut défendre leurs droits tout autant, bien sûr, mais majoritairement, ça reste des femmes. Donc ça c'était pour les temps partiels horaires atypiques, mais il y a aussi, par exemple, le problème des secteurs, notamment le secteur de travail de soins, aides-soignantes, les femmes qui travaillent dans les maisons de retraite, les assistantes maternelles, qui sont des métiers super important socialement, mais pour lesquels on considère finalement que ça ne demande pas trop de qualifications, ce qui à mon avis est complètement faux, et qu'on paye pas. Là, il y a eu il y a 2 ans, je crois, le plan, comment ça s'appelait, projet de loi sur les services à la personne, qui visait à développer les métiers de service envers les enfants, envers les personnes âgées, tout ce qui concerne l'aide à domicile, l'aide aux personnes dépendantes, etc. Au départ, il y avait un vague affichage pour dire que finalement, on allait valoriser ces métiers de service très importants. Ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas de lutte justement contre l'emploi à temps partiel dans ce domaine, qu'il n'y a pas de réel plan de formation qui permettrait de valoriser ces métiers, d'augmenter les rémunérations. Et ça reste des boulots où les femmes vont, où on envoie les femmes aussi, enfin, et qui ne permettent pas finalement une juste reconnaissance de la valeur de ce travail, parce que c'est, enfin, moi ça me semble évident que c'est des métiers super importants. C'est contribuer au bien-être, c'est aider les gens à rester justement autonomes, indépendants, là je pense aux personnes âgées, c'est contribuer au développement psychologique et social des petits-enfants, enfin, et ça c'est des métiers qui restent structurellement mal payés parce que trop peu reconnus. Les sociologues qui ont bossé là-dessus disent notamment que finalement on a toujours considéré que c'était un peu des compétences, enfin des qualités naturelles qui étaient mobilisées et que c'était pas des vraies qualifications, quoi. Qu'en gros, pour le dire, enfin je veux pas être vulgaire, mais que pour s'occuper de changer les couches des vieux et de garder les enfants faire garderie, il n'y avait pas besoin d'être qualifié. Je caricature un peu parce qu'il y a quand même, mais il y a un peu de ça derrière quand même. Enfin, les métiers notamment de les écoles maternelles, je pense, sont justement sont des métiers qui demandent une qualification. En France, même il y a des pays qui nous envient par rapport à ça. Je pense à l'Allemagne. Mais les instituts en école maternelle, elles ne gagnent pas non plus la lune. Hein. Enfin, elles sont pas.
Tout à l'heure, tu parlais justement du syndicalisme et de l'importance, ouais, en fait, de l'action syndicale pour les femmes. Et je crois qu'également dans les milieux syndicaux, les femmes ne sont pas très représentées, mmh, et qu'il y a de toute façon également ce même fonctionnement patriarcal qui bloque un peu. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu?
Oui. Mais il y a toujours cette socio-économiste Rachel Silvera qui a travaillé sur les femmes dans le syndicalisme. C'est assez intéressant. Elle montre que, ce que tu disais, les syndicats sont aussi, peuvent être une forme d'organisation patriarcale. Le syndicalisme, il est souvent né dans des bastions d'emploi masculins. Et les syndicalistes ne sont pas forcément des gens non sexistes ou non machistes, même s'il ne s'agit pas de faire de généralités abusives. Mais disons que, comme partout ailleurs, ni plus ni moins à mon avis, dans les syndicats, les femmes ont été confrontées effectivement au problème de sexisme ou de machisme pur et simple, qui faisait qu'elles n'ont pas forcément été aussi écoutées que les hommes. C'est-à-dire que peut-être, je ne dis pas que ce ne sont que les femmes qui vont parler des problèmes de femmes qui ne sont pas des problèmes de femmes, mais des problèmes de société. Mais effectivement, quand on vit directement les choses, on est peut-être plus à même pour porter certaines revendications. Et c'est sûr que la question de, par exemple, de garde d'enfants pour l'investissement professionnel, enfin, les femmes le portent plus aujourd'hui encore. Elles ont effectivement les syndicats qui étaient numériquement plus masculins, quand même pas trop porter ces questions, plus porter des questions de salaire, de pouvoir d'achat, qui sont très importantes aussi, mais n'ont pas forcément fait la part belle à ces revendications, et ont reproduit d'une certaine façon une forme de sexisme. Il y a aussi que les syndicats, en tant qu'organisation, ont aussi discriminer les femmes, parce que c'est un vrai défi aujourd'hui. Moi, j'ai pas la réponse. Comment on fait aujourd'hui pour faire des réunions syndicales qui permettent à tout le monde de venir? Peut-être qu'il faut par exemple privilégier les réunions syndicales sur l'heure du midi plutôt qu'en en fin de journée. Peut-être aussi que il faut faire plus de aller plus vers les salariés et pour gagner les secteurs féminins dont je parlais tout à l'heure, les caissières, tout ça, au syndicalisme, parce que c'est des lieux de travail finalement avec des formes d'emploi parfois très individualisées, etc., où il n'y a pas eu la forme de sociabilisation dans le travail qui fait que les femmes finalement sont aussi moins syndiquées. Il y a cette articulation, il y a un problème quantitatif qui fait que les femmes sont moins syndiquées, et il y a un problème de fonctionnement des organisations syndicales. Ceci dit, sur le fonctionnement des organisations syndicales, c'est quand même devenu un thème. Je crois qu'il y a des choses quand même qui sont en train de changer. J'ai un petit peu suivi ce qui s'était passé à la CGT. Ils ont fait attention, par exemple, à des choses toutes bêtes, entre guillemets, qui ne résoudront pas tout le schmilblick, mais qui sont importantes. Que ce soit un fonctionnement paritaire, c'est-à-dire que d'éviter de reproduire justement ce plafond de verre, de systématiquement mettre des hommes au poste de direction. Ils ont fait attention dans leurs instances exécutives, etc., à ce que les femmes soient présentes, visibles et actives. Ça, c'est pour le fonctionnement interne. Ensuite, pour le problème quantitatif que les femmes restent moins syndiquées, je crois que le gros défi pour les femmes et pour les métiers du tertiaire qui se développent, les métiers très, très précaires dont on parlait tout à l'heure, il faut que les syndicats aillent vers eux. Et ça, je pense que les syndicats en sont conscients. D'ailleurs, quand on lit les déclarations de la CGT aujourd'hui, ils le disent, quoi, qu'il faut essayer de gagner des bastions, des déserts syndicaux pour faire place à l'action, aux revendications collectives, tout simplement permettre aux gens de se rencontrer sur le travail, de discuter. Et évidemment, c'est pas du tout évident quand il y a tel salarié travaille de 8h ou de 6h à 10h et que l'autre est du soir, et ben ces gens-là vont pas discuter ensemble, conditions de travail, vont pas faire de pause café ensemble. Il y a aussi que les femmes, je pense, qui cumulent des temps partiels, c'est moins propice, on va dire, à l'engagement syndical, parce qu'on n'est ni totalement dans un métier, ni dans l'autre. On est sur deux postes, on est dans deux entreprises, et finalement, on est dans rien à 100%, d'une certaine façon. Ça, c'est pas facile, quoi, de s'investir dans un... Il y a aussi, évidemment, ça, on n'en a pas parlé, mais le développement massif des contrats à durée déterminée, qui font que, finalement, peut-être on s'investit moins personnellement quand on est dans un métier dont on se dit, de toute façon, dans 8 mois, je suis ailleurs. Donc, on noue moins de liens sociaux avec les collègues, mais aussi, on a peut-être moins envie, d'une certaine façon, parce que c'est du temporaire, c'est du tout ça. Donc, je sais pas s'il faut parler d'identification à l'entreprise, mais en tout cas, on s'implique moins sur son lieu de travail. Parce que on pense au boulot d'après, parce que puis il y a aussi, mais ça c'est pour les femmes et les hommes à mon avis, un gros problème de tout simplement de connaissance du droit du travail, de la tradition, qui fait, mais ça c'est pas à mon avis spécialement sexué. Mais sur l'action syndicale, à mon avis, oui, c'est un gros défi. C'est vraiment. Je sais pas, il y a aussi les métiers là, assistante maternelle ou les femmes qui travaillent dans des associations, employées par des associations qui travaillent chez les personnes âgées. Moi, je sais pas comment on fait pour syndiquer là-dedans, parce qu'il n'y a pas un lieu de travail commun où on se rencontre, etc. Je pense que c'est vraiment un des gros défis pour les années à venir, pour les syndicats, puisqu'on va vers une société qui se tertiarise. Pour endiguer la baisse d'engagement syndical, à mon avis, il faut vraiment investir ces lieux-là.
Justement, à l'heure où on parle beaucoup de parité en politique, qu'est-ce que fait l'État pour améliorer l'égalité homme-femme, pour faire la promotion de cette égalité?
Il y a eu des lois quand même. Il y a eu des lois. En fait, il y a eu, si on revient au début de l'entretien, il y a eu, pas forcément au départ, mais en tout cas pour la France, ça a été important, des directives européennes dans les années 70, qui proclamaient une égalité formelle, juridique, entre les hommes et les femmes, une égalité de salaire d'abord, ça s'est un peu élargi, c'est-à-dire qu'on a compris que le salaire, c'était pas juste la rémunération, c'était aussi la protection sociale, etc. Donc il y a eu des directives, en gros, qui interdisaient les discriminations. Sauf qu'évidemment, ça s'est traduit par des lois de transposition en droit interne. Il y a eu la fameuse loi Roudy de 82, qui luttait contre les inégalités de salaire en entreprise, et qui ne se contentait pas d'interdire les discriminations salariales, qui essayait aussi que les entreprises soient obligées finalement de mener une politique volontariste en la matière, en faisant des plans égalité, en faisant des bilans sur les salaires des hommes et des femmes, en proposant des actions positives, etc. Sauf que, c'est là où le bât blesse, la partie volontariste, c'était une partie non obligatoire. Il y a notamment Jacqueline Loffer qui a travaillé là-dessus, qui a montré qu'il y avait très peu d'entreprises qui s'étaient lancées dans ces fameux plans égalité. Donc ça, c'était la première grande loi de 82. Ensuite, il y a eu... là, il y en a une qui est passée encore il n'y a pas très longtemps, au gouvernement de droite, sur l'égalité salariale. Il y a eu le label égalité. Alors ça, moi, j'y crois pas trop personnellement. C'est une vision très libérale des choses. C'est de dire qu'en gros, les entreprises vont utiliser le label égalité comme image de marque et donc vont... en interne favoriser les politiques égalitaires en matière de salaire, de recrutement, etc. Pour obtenir une certification label égalité des instances, je crois que c'est d'un comité qui contient des représentants de l'État, des syndicats, etc. Et qu'une fois qu'elles auront le label égalité, finalement les consommateurs, en trouvant que tout ceci est très bien, iront plus vers les entreprises. On voit quand même que c'est une vision... très libéral de la chose, c'est comme si les consommateurs achetaient ou s'orientaient vraiment en fonction de ça. Personnellement, j'ai du mal à y croire. C'est donc à nouveau, c'est ça le problème, c'est que c'est surtout des actions non contraignantes. La dernière loi sur l'égalité professionnelle n'introduit pas de changement majeur sur la question de l'obligation de négocier l'égalité salariale, de négocier des plans de revalorisation des salaires de femmes, de favoriser l'accès à la formation, de faire des contrôles d'une certaine façon des activités des DRH, etc. Tout ça, c'est pas pour aujourd'hui non plus. Ce qui est intéressant, c'est que c'est d'aller voir ce qui se passe un peu chez les autres. Alors on parle toujours des pays nordiques, c'est un peu tarte à la crème, mais enfin c'est aussi un peu la réalité, c'est-à-dire que il y a en fait la lutte contre les inégalités au niveau des politiques publiques, c'est les politiques salariales, mais pas seulement non plus, c'est, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, à mon avis une politique sociale très active avec des crèches pas chères pour que tout le monde puisse y aller, enfin en tout cas proportionnel aux revenus des parents peut-être, j'en sais rien. Mais en tout cas, qu'ils ne soient pas discriminants vis-à-vis des bas salaires, des crèches, des haltes garderies, des horaires aussi d'écoles qui permettent aux parents quand même... je ne dis pas qu'il faut que les parents restent à l'entreprise jusqu'à 8h, mais il y a des fois c'est difficile de se libérer à 4h30 pour aller chercher les enfants, c'est quand même vachement dur. Donc un encadrement social des enfants, un encadrement social aussi des autres personnes dépendantes, on ne le dit pas souvent, mais c'est... prendre en charge les personnes handicapées, les personnes âgées, donc c'est des maisons de retraite. Les maisons de retraite, à mon avis, c'est en lien clairement avec la place du secteur public dans la société, parce que le secteur public reste quand même moins discriminant vis-à-vis des populations peu aisées, enfin défavorisées, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Donc c'est la place du secteur social, des politiques de prise en charge des personnes dépendantes, petite enfance, etc. C'est aussi peut-être une politique tout simplement du temps de travail, c'est-à-dire limiter le temps de travail, clairement, pour moi ça c'est une priorité, pour que les femmes et les hommes, par ricochet d'une certaine façon, puisse ne pas devoir opposer investissement professionnel et activité familiale et privée, mais les partager, les concilier. Et c'est sûr que c'est pas en faisant des semaines de 50 heures qu'on valorisera l'emploi féminin. Ça, on en a déjà parlé de ça, mais donc c'est une politique de temps de travail. Qu'est-ce que c'est encore ? C'est aussi, oui, tout simplement une politique, alors ça on en est loin à mon avis, courageuse de lutte contre les bas salaires, c'est une revalorisation du SMIC, une lutte, c'est aussi par exemple peut-être revoir la lutte sur l'embauche par les entreprises d'emploi à temps partiel, c'est-à-dire limiter le recours au temps partiel flexible pour permettre tout simplement à ces femmes qui sont là d'avoir des emplois à temps plein et d'avoir un salaire décent, de ne pas gagner, pas faire 20 heures au SMIC horaire. Ça aussi, donc c'est une forme de promotion de l'égalité homme-femme, sauf qu'elle est complètement absente. C'est quand même pas la tendance aujourd'hui de valoriser les emplois les emplois convenablement payés et à des horaires à peu près réguliers. Après, alors ça, c'est peut-être plus du ressort des syndicats, mais c'est effectivement, après, favoriser l'action collective, les revendications collectives. Mais ce qui marche, pour le coup, ailleurs, mieux que chez nous, même si c'est aussi en régression, c'est justement ces politiques sociales de prise en charge des personnes dépendantes. Et quand même, on observe qu'en Suède, en Finlande, même si il y a aussi des formes d'inégalité entre les hommes et les femmes, même s'il y a du plafond de verre, même si les femmes sont aussi cantonnées dans certains métiers plus que les hommes, quantitativement, il y a quand même plus de femmes salariées. Il y a aussi d'autres formes de temps partiel, qui, à mon avis, c'est dommage qu'elles soient réservées aux femmes, mais c'est pas forcément mal qu'ils existent. Ce sont à venir des temps partiels à 90%, c'est-à-dire des temps partiels à 32 heures, qui peuvent être pris par les femmes et par les hommes. Il y a aussi des congés paternels obligatoires en Suède. Ça continue à se faire de façon inégalitaire, c'est-à-dire que les femmes continuent de prendre un congé parental plus long que celui du père, n'empêche que les pères sont quand même obligés d'assumer un certain nombre de semaines dans le congé parental. Ça, c'est une façon de valoriser, à mon avis, l'égalité entre les hommes et les femmes. Et ça, quand même, je dis pas du tout que c'est parfait, mais ça marche mieux que chez nous. Ce qui est intéressant, c'est quand on écoute les féministes suédoises ou finlandaises et tout, elles disent que, dans le contexte de libéralisme grandissant, tout ça, ça tend quand même à être mis en cause, parce qu'évidemment, ça coûte très cher aux États, aux communes, aux régions, de payer, ça coûte cher, de fait, des crèches, des garderies, des maisons de retraite publiques, etc. Et que la tendance, c'est quand même plutôt de rogner sur ces dépenses-là. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'il y a une politologue, je trouve intéressant cet article, une politologue allemande qui a travaillé là-dessus, elle s'appelle Ulrike Liebert, et elle a cherché à savoir pourquoi, donc ça c'est de la sociologie électorale, pourquoi les femmes suédoises avaient plus voté non au référendum de 95, là, sur l'adhésion... Non, c'est pas les Suédoises, c'est les... C'est lesquelles là, qui ont voté non les Norvégiennes, voilà. Pourquoi les Norvégiennes ont plus voté non que les Norvégiens à l'adhésion à l'Union européenne. Et je vous fais le cours, mais de façon très rigoureuse, elle dit qu'une des explications tout à fait plausibles, les femmes qui ont majoritairement voté non, ce sont notamment les femmes qui sont en âge d'être mères, qui sont plutôt qualifiées, etc., et qui ont fait une corrélation entre la politique de réduction budgétaire prônée par l'Union européenne, avec les critères de Maastricht et tout ça, qui forcément a des conséquences négatives sur l'état social, et elles ont fait le lien avec une possible remise en cause de leurs acquis sociaux et de la politique sociale de l'État norvégien, qui pourrait finalement, si la Norvège entrait dans l'Union européenne, aboutir à des régressions pour elle, parce qu'il y aurait peut-être moins de crèches, peut-être moins de dépenses sociales, que peut-être il y aurait une régression de leur situation en tant que femme en Norvège.